Alain Baraton, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à toutes et à tous.
Les plantes avec vous, les plantes qui peuvent soigner. Cela dit, vous dites qu'il faut être prudent.
Oui, car beaucoup sont toxiques. Les plantes responsables de désagréments, voire davantage, sont souvent les plus jolies, comme celles qui produisent des petits fruits qui attirent les enfants. Les baies du gui, du houx, de l'arôme, du chèvrefeuille, du lierre sont toxiques. Et les fruits du pommier d'amour, bien sûr, du citis, du fusain, du genêt, le sont aussi.
Alors quelques conseils simples pour éviter les problèmes.
Ne pas laisser les enfants porter à leur bouche du muguet ou du datura. N'installez pas dans un logement fréquenté par les gamins du Diefenbeckia. C'est une plante d'intérieur. Vous savez, vous la connaissez de vue, elle a de très grandes feuilles panachées jaunes et blancs. Elle est très belle, mais malheureusement, par simple contact avec la sève, celle-ci peut provoquer de graves inflammations et son ingestion peut produire un œdème important de la langue et du palais, une asphyxie pour les cas les plus graves. Méfiez-vous aussi du laurier cerise. Son feuillage est toxique et ingéré. Il peut perturber le rythme respiratoire. Respiratoire, pardonnez-moi, c'est moi qui manque de souffle apparemment, avec risque limité certes, mais il existe de coma.
Bon, un mot sur la belladone, c'est une plante d'ailleurs qui a un joli nom.
Ah, belladone, belle dame, il est vrai que c'est un joli nom. Elle s'appelle ainsi car en Italie au XVIe siècle, les dames de la cour se mettaient des gouttes d'extrait de belladone dans les yeux. Cela dilatait les pupilles et faisait loucher. Très chic à l'époque, mais dangereux. Voilà, alors la belladone est une plante commune. Ses fruits ressemblent à des petites cerises noires et attirent les enfants. En consommer une quinzaine peut provoquer la mort. Et d'ailleurs, c'est cette plante qui, à l'origine, a fait que les Français se sont méfiés de la tomate car les fruits se ressemblent quelque peu.
Quelle est la plante la plus dangereuse en France?
Alors, il est toujours bien difficile de répondre à cette question. Mais attention au colchic, au laurier rose et au ricin. Bien évidemment, cette mise en garde est surtout valable pour les tout-petits et évitez donc d'en planter là où il y a les enfants. Évitez aussi et surtout une jolie petite fleur bleue, l'aconitum napellus. Oui, Patricia Martin, je vous ai préparé un bouquet de cette petite fleur. Elle est vivace, mesure entre 60 cm et 1,20 m.
Et ce soir, je serai morte, c'est ça?
Vous allez écouter la suite, vous allez comprendre. Et elle est surtout présente dans les régions montagneuses. Bien que très employée par les médecines parallèles, elle est redoutable car elle contient de l'aconitine qui est un neurotoxique violent. Alors je vous ferai grâce, rassurez-vous, des complications physiques. Sachez simplement que la mort peut être au rendez-vous. Les botanistes ne se sont d'ailleurs pas trompés quand ils l'ont surnommée Tulou, reine des poisons ou encore arsenic végétal.
On dirait le sketch de Bedos. Bonne fête Paulette, elle a horreur des fleurs. Bonne fête Paulette.
C'est un peu vrai.
Ça ressemble à ça. Sur le même thème, avant les questions des auditeurs, votre conseil lecture?
Oui, Jardin et santé, des thérapies qui renouent avec la nature. C'est un ouvrage sous la direction d'Anne Chahine, photographie de Laurent Toussaint, la préface du professeur Marcel Ruffaut, pour rappeler que le jardin joue un rôle immense dans le rétablissement des malades, surtout ceux qui souffrent de problèmes mentaux. Donc l'importance de s'entourer de jardin. Donc c'est un ouvrage qui fait la synthèse, la réflexion sur le besoin, la nécessité de s'entourer de jardin. Je rappelle le titre, Jardin et santé, c'est publié aux éditions Petit Génie. Très intéressant à lire.
Vos précieux conseils à présent, les questions des auditeurs. Karine vous demande, elle vous dit d'abord qu'elle a très envie de planter des pommes de terre sous plastique. Qu'en pensez-vous, Alain?
Qu'il faut attendre. Effectivement, vous pouvez maintenant retourner la terre, maintenant mettre des pommes de terre, maintenant mettre des tunnels plastiques par-dessus pour les protéger du gel. Mais est-ce vraiment joli d'avoir dans son jardin du plastique? Je n'en suis pas sûr. Un potager ne doit pas seulement vous fournir de bons légumes, il doit également être capable d'être beau. Et puis, quand on parle d'écologie, quand on parle de protection de l'environnement, eh bien, il faut également faire des cultures qui ne soient pas polluantes. Cultiver sous plastique n'est pas polluant, mais produire du plastique l'est polluant. Donc on encourage ainsi, et bien malheureusement, la dégradation de l'environnement. Donc on attend gentiment et on mettra en terre les pommes de terre lorsque, comme le disent les vieux jardiniers, les grosses gelées ne seront plus à craindre.
Est-il vrai que le purin de fougère est efficace contre les insectes?
Il paraîtrait, et ceux qui le disent ont constaté que les fougères aigles, c'est celles qui tapissent les sous-bois des grandes forêts du sud-ouest, et bien regardez bien, elles ne sont jamais dévorées. Aucune bestiole ne vient jamais manger les fougères. Vous ne verrez jamais des insectes gentiment dévorer leur feuillage. Donc beaucoup en déduisent que le purin de fougère aigle est efficace et apparemment c'est vrai. Donc je vous rappelle que le principe c'est la décomposition et le fait de laisser macérer dans l'eau du feuillage. Ça peut être de l'ortie, de la prêle ou des fougères. Et je crois qu'en fait c'est l'odeur qui est souvent telle que même les insectes préfèrent aller voir ailleurs.
Toujours à propos des insectes, Akima dit qu'elle a observé l'an dernier que des pucerons sur ses plantes, les plantes de sa terrasse. Ces pucerons n'avaient pas d'ailes. Alors, comment sont-ils venus, sachant que Akima habite au 9e étage?
Ça, c'est la merveille de la nature. Le puceron, effectivement, n'a pas d'ailes, mais il n'a pas pris l'ascenseur pour venir. Il est venu vraiment, ou du moins, ses parents sont venus par les airs. Les pucerons ont des ailes. Puis ils s'installent sur un balcon, ils y sont bien. Les générations futures n'auront donc pas d'ailes. Simplement, à un moment donné, l'espace est un petit peu réduit. On manque un petit peu de nourriture. Alors la génération qui va être la suivante va, elle, être dotée d'ailes pour aller conquérir une autre terrasse, un autre balcon. Là, il va y avoir une descendance qui n'aura pas d'ailes, etc., etc. C'est quand même extraordinaire de voir que la nature est capable, en fonction de ses besoins, de doter un animal d'ailes ou de ne pas en doter. Je suis toujours émerveillé, devant la création de la nature que je manque de mots.
On a compris. On a compris que vous étiez très épaté par les insectes.
Mais, et surtout par les pucerons. Et un jour, nous parlerons avec beaucoup d'humour.
Comme le seul être de France ou du monde à être épaté par les pucerons.
Non, mais nous parlerons un jour, si vous le voulez, par exemple, de la reproduction des insectes du jardin. C'est absolument inouï. Par exemple, la petite punaise du jardin a protégé ses organes sexuels, la femelle, d'une carapace. Mais en réalité, monsieur punaise, s'il veut être sûr de pouvoir la féconder, a un canon à sperme pour le pulvériser cette carapace. Il est capable de se reproduire à distance.
Ça vous épate.
Plus amusant encore, monsieur Punaise, parfois, n'a pas une bonne vue, il se trompe et il vise non pas une femelle, mais un mâle. Ça fonctionne dans les deux cas. Vous imaginez, Eric, si vous avez eu la chance...
Non mais ça va, on arrête là,
la sexualité des insectes, vous tenez un concept là. En deux mots, Karl vous demande, comment est-ce qu'ils peuvent bien réduire le volume d'un rhododendron?
En le taillant, mais on évite qu'il soit trop important pour le réduire, on empêche qu'il se développe. Si on taille trop court le rhododendron, il va être très laid, il faudra beaucoup de temps avant qu'il ne retrouve sa verdure.